I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah! Comme on se sent meilleur, noyé dans la masse des anonymes. Comme on se sent fort et plein d'audace. C'est pourquoi, avant de nous quitter, inébranlablement ancré à gauche de ce qui est à droite et à droite de ce qui est à gauche, nous redirons l'avenir est pour demain.
Alors moi je voudrais fumer un joint avec Jean Lassalle, mais pas n'importe où, à Lourdes aussi cher dans son exploitation familiale dans les Pyrénées. On allumerait le joint après une petite randonnée dans les montagnes qui l'ont vu grandir, et là-haut il m'apprendrait les bases de l'occitan, et ensuite on chanterait en duo la montagne de Jean Ferrat, ça serait bien. Après Lassalle, il voudrait sûrement en allumer un deuxième de joint. Mais moi je dirais non Jean, quand même, c'est pas raisonnable, il faut bien qu'on redescende.
Écoutez, je crois qu'il faut raison garder là.
Toi tu vas ta gueule fermée.
Bon là, Jean on serait pas content du tout, il pousserait une gueulante digne de l'Assemblée nationale. Au final on finirait par descendre, péniblement. Et là à la ferme, eh bien on en allumerait un deuxième, on boirait un verre, et puis on renomme les chèvres d'après les noms de ses adversaires politiques. Tiens, par exemple, la petite blanche qui gueule tout le temps, bah c'est Marine.
Pourtant, que la montagne est belle.
Bon, franchement, perso, je crois que je préférerais fumer un joint avec Jean Ferrat en personne plutôt qu'avec Jean Lassalle en écoutant Jean Ferrat.
Ouais, mais en même temps, cette scène avec les chèvres, les Pyrénées, moi ça me donne envie, hein. Mais juste pourquoi est-ce qu'on a reçu cette voice note en fait ? Tu leur as posé quoi comme question aux auditeurs ?
Bah, je leur ai demandé avec quel candidate ou candidat ils aimeraient fumer un joint pardi. Puis figure-toi qu'il y a quelques semaines, il y a un institut de sondage très sérieux, l'IFOP, qui a posé exactement la même question aux Français. Et tiens-toi bien, le candidat qui arrive en tête de ce sondage-là, eh ben c'est Éric Zemmour.
Ok, bah moi je pars direct à la montagne partager ma banane avec Jean Lassalle. Hein. Mais je crois qu'à propos de politique, il y a quand même deux ou trois questions un poil plus sérieuses auxquelles il faudrait qu'on s'attelle. Parce que le premier tour, c'est le 10 avril. Alors pas de temps à perdre, Christophe. Banana Kush, épisode 35, spécial présidentiel. C'est parti.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Tous les 5 ans, c'est la même rengaine. Alors qu'on s'apprête à choisir le président de la République, on se demande à nouveau, est-ce que ça va être pour cette fois-ci ?
Quoi ?
Bah, la légalisation du cannabis, pardi.
Ah oui, c'est vrai qu'on est dans un podcast qui s'appelle Banana Kush. Du coup, à l'approche du premier tour, on s'est penché sur ce que les candidates et les candidats ont à en dire. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant la campagne, on les a très peu entendus sur le sujet.
Et pourtant, c'est pas faute d'avoir sorti un livre Banana Kush pile à temps pour essayer de peser sur les débats.
Qui sait, hein, peut-être qu'il a atterri entre les mains d'une ou d'un candidat. Ce qui est sûr, c'est que nous, on se pose plein de questions sur cette élection. Quels sont les candidats qui ont un propos sur le cannabis ? Quels sont ceux qui portent la légalisation dans leur programme ? Y a-t-il des visions différentes, des nuances entre les pro-légalisations ? Pourquoi le sujet a-t-il tant de mal à s'imposer malgré le contexte international ? Et puis surtout, pour qui votent les fumeurs de joint ?
Eh bien, pour y répondre, on a rencontré un chercheur, un militant associatif, et puis, comme d'habitude, on a aussi recueilli vos témoignages. Et on a commencé par vous demander si le sujet du cannabis déterminera ou non le choix du bulletin que vous glisserez dans l'urne.
Round 1, fight!
Alors pourquoi je vais voter pour un candidat qui veut légaliser le cannabis et pourquoi ça me semble déterminant dans mon choix ? Parce que je trouve que c'est un sujet de société très très important pour la jeunesse, pour l'avenir de notre société. Et en plus, il y a plein d'opportunités là-dedans, plein d'opportunités économiques, d'emploi, d'intégration de toute une tranche de la population dans ces métiers-là, côté agriculture, côté revente. Enfin, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de pays qui l'ont fait, ça marche super bien. Donc clairement, moi, je vais voter pour un candidat qui veut légaliser, et c'est un de mes premiers choix dans mon vote.
Round 2, fight. Non, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'importe dans mes choix de vote. En vrai, moi, je suis même pas sûr d'aller voter cette année. C'est pas un argument qui va me faire me lever le dimanche pour choisir un candidat. Je pense qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à voir, même si ça compte. Hein. Pour moi, c'est pas ça l'essentiel du débat, il est pas là-dedans. Et j'ai même des fois l'impression qu'il y a quand même, de la part de certains partis, il y a quand même un peu de démagogie là-dedans. Et c'est peut-être plus un moyen aussi de récupérer les voix des jeunes. Et finalement, une fois arrivé au pouvoir, dire bah voilà, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Et au bout de 4 ans et demi, bah toujours rien quoi. You win. Perfect.
5 minutes de Banana Cush et déjà la République des stoners est divisée. Pour l'un, c'est le sujet, l'alpha, l'oméga du bulletin dans l'urne. Pour l'autre, il y a d'autres sujets qui comptent plus que le statut légal du cannabis en France, il a le droit. Et puis de toute façon, on n'est pas sûr ni de croire aux promesses des candidats, ni même d'aller voter.
Mais si la légalisation du cannabis peut être un sujet déterminant pour certains électeurs, pour faire son choix, encore faudrait-il connaître et comprendre les positions des 12 candidates et candidats sur la question. Pour ça, on a deux solutions. Soit on épluche un à un tous les programmes en espérant y trouver quelque chose.
Rien n'est moins sûr.
Ou alors, plus rapide, on pose la question à Sony Perseil.
Sony Perseil est docteur en sciences politiques, chercheur dans l'un des laboratoires du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. À l'approche de la présidentielle, l'association LIP, qui milite pour une réforme des politiques des drogues en France, l'un des sujets de recherche de Sony Perseil, lui a demandé d'étudier les programmes et les discours des candidats à la fonction suprême et de réaliser une petite cartographie de leurs idées, plus ou moins fumeuses, sur la question.
Banana Cush. Un podcast de Nick, la radio.
Bonjour Sony Perseil.
Bonjour.
Vous avez récemment fait une étude du positionnement des candidats à l'élection présidentielle de cette année sur la question de la légalisation du cannabis. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé, quelle était votre méthode ?
J'ai contacté les 12 états-majors des candidats à l'élection présidentielle. 6 m'ont répondu. Et pour le reste, je me suis saisi d'une part des programmes et j'ai récupéré aussi, notamment sur Internet, des articles, des extraits, des interviews, des verbatims, ce qui m'a permis de faire cette sorte de cartographie.
Donc il y a 6 candidats sur les 12 qui vous ont répondu. Est-ce qu'ils ont joué le jeu ? Est-ce qu'ils ont développé ? Est-ce que c'est facile de savoir quelle est la position aujourd'hui des candidats sur le cannabis ?
Il est certain qu'aujourd'hui, il y a, en plus d'une différence de position entre les candidats, une différence de compétence. Le sujet n'apparaît pas très maîtrisé par les politiques. On remarque, alors sans aucun jugement de valeur de ma part, qu'il y a une formation politique qui se distingue des autres par le degré de compétence, et cela depuis quand même assez longtemps, ce sont les écologistes. Europe Écologie Les Verts connaissent bien le sujet depuis longtemps et disposent d'ailleurs dans leur formation véritablement de spécialistes, d'experts. Les autres formations politiques peuvent avoir en leur sein quelques personnes qui connaissent mieux la question, mais de manière générale, il y a un défaut d'expertise sur la question.
Interdire les fleurs de CBD, c'est comme bannir le champomy, parce qu'on pourrait le confondre avec du champagne. Parfois, on pourrait penser que certains arrêtés sont signés par des ministres qui ont fumé de la très très bonne.
Merci Cécile Duflo.
Est-ce que au-delà du déficit de compétences qu'il peut y avoir chez certains candidats ou partis, on observe une différence aussi d'intérêt pour le sujet ?
Oui, et je dirais que l'intérêt va de pair aussi avec le positionnement. L'intérêt des écologistes est lié à leur positionnement favorable à la légalisation. De même, pour l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, ces deux candidats sont sans doute les plus favorables à la légalisation et ont vraiment développé pas mal d'argumentaires et semblent plus intéressés que d'autres candidats.
Alors, qui sont les 6 candidats, ou en tout cas les 6 équipes de candidats qui vous ont répondu ?
Alors, évidemment, l'équipe de Yannick Jadot, celle de Jean-Luc Mélenchon, l'équipe de Nathalie Arthaud, celle de Nicolas Dupont-Aignan, celle de Jean Lassalle et celle de Philippe Poutou.
Qui serait mon roudoudou ?
Alors ça, c'est intéressant puisque on remarque forcément que la grande majorité de ceux qui vous ont répondu directement, ce sont des candidats qui sont plutôt à la gauche de la gauche, si j'excepte Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, et donc des personnes qui peuvent porter la légalisation dans leur programme.
Les équipes à droite qui sont hostiles ne présentent pas, ne semblent pas aussi manifester un intérêt extrêmement important. Il y a peut-être une exception à droite, voire à l'extrême droite, c'est Éric Zemmour qui a fait un certain nombre de déclarations parfois contradictoires, mais qui montraient qu'il se posait des questions.
Ça paraît assez étonnant comme ça d'entendre qu'il a pu être ambigu sur la question. C'est quoi le contenu de ce qu'a dit Éric Zemmour sur la légalisation du cannabis et comment est-ce que ça a évolué ?
Alors, Éric Zemmour apparemment était hostile auparavant. Il avait même débattu avec des personnes qui étaient favorables. Et puis, dans son élan sécuritaire, il a, je dirais de façon peut-être plus honnête que d'autres candidats de la même famille politique qui portent le même type de discours sécuritaire, constaté ce qui est... incontournable, à savoir l'échec des politiques en matière de lutte contre les trafics et les dégâts que cela provoque. Et je vais citer une de ses interviews de mai 2021. « La répression ne marche pas. Je me demande s'il ne faudrait pas envisager la légalisation organisée du cannabis. J'essaie de faire un raisonnement froid. » En décembre dernier, il disait « J'y réfléchis, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne solution. » Donc on peut penser tout ce que l'on veut du personnage, mais sur ce sujet-là, il a eu l'honnêteté de dire publiquement qu'il réfléchissait au sujet, qu'il n'avait pas d'idée arrêtée. Il se trouve que très récemment, c'était sur la chaîne Combini.
Je vous invite à partager mon sandwich.
Il a dit finalement, j'ai pris ma position, je suis contre la légalisation.
C'est très mauvais pour la mémoire, c'est très mauvais pour le QI. Ça crée parfois des états dépressifs et ça enrichit des bandes de racailles. Banlieusarde.
Mais ta gueule !
Voilà, il a finalement pris une position plus en concordance avec ce que l'on pouvait penser de son positionnement à droite, voire à l'extrême droite.
Et alors, grosso modo, si on regarde la cartographie, justement, du positionnement des candidats, comment elle ressemble à quoi cette cartographie ? Est-ce qu'on retrouve l'axe gauche-droite traditionnel ?
D'une manière générale, oui. Donc on a les quatre candidats de droite, extrême droite, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, qui ne présentent pas énormément de différences, qui sont plutôt pour un statu quo. On a un candidat président, Emmanuel Macron, que l'on peut situer au centre droit, qui ne présente pas véritablement d'éléments dans son programme. Et ce qu'il faut rechercher, c'est plutôt ce qu'il a fait pendant son mandat, à savoir l'amende forfaitaire qui n'est aucunement une remise en cause de la prohibition, mais je dirais qu'il est plutôt une façon de rendre plus efficace à ses yeux la loi. Donc c'est plutôt le statu quo. En plus, il y a eu toutes ces hésitations, pour ne pas dire cafouillage autour du CBD qui montre qu'il y a vraiment une hostilité, une incompréhension de ce qu'est le cannabis, les usages et tout ça. Et il semble suivre le raisonnement et les positions de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a un petit peu fermé le sujet avec une déclaration tonitruante qui revenait en fait à des slogans très très anciens de la communication publique contre la drogue, à savoir « la drogue c'est de la merde ». Quand on dit ça et quand on le tient, le débat n'a plus lieu.
Cette merde, la drogue, c'est de la merde.
Non, non, c'est cloug.
Donc finalement, Emmanuel Macron est dans le même camp que les quatre de droite nationale, extrême droite. Après, on a quand même, à partir de ce centre droit, des positions assez contrastées. Alors on a au centre droit, on peut le classer puisqu'il avait été proche de François Bayrou, Jean Lassalle, qui lui est favorable à la légalisation, sans ambiguïté. On a au centre gauche Yannick Jadot, je n'y reviens pas, qui est évidemment favorable. Et puis, il y a le cas très particulier d'Anne Hidalgo, qui, pour le Parti Socialiste, et c'est un peu une constante depuis des années, présente une position embarrassée, qui appelle à une conférence de consensus. Mais vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y a aucun consensus en la matière. Donc, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que structurellement, vraiment, le Parti Socialiste a toujours été gêné sur cette question. J'avais commencé à travailler sur le sujet en 2002 pour l'élection présidentielle, à un moment où le sujet était très discuté entre les candidats, et tous les candidats s'étaient prononcés, sauf Lionel Jospin, qui avait eu énormément de mal à dire quelque chose, et finalement, comme tout le monde s'exprimait sur le sujet, il avait lâché un communiqué de presse à l'AFP qui disait quelque chose qui n'est pas très clair, à savoir qu'il vaut mieux fumer un joint chez soi plutôt que boire au volant. Donc une manière de relativiser un peu la dangerosité du produit sans prendre position. Et depuis, finalement, on a eu énormément d'hésitations, avec quelquefois des prises de position de ténors du Parti Socialiste plutôt pour la légalisation, d'autres au contraire qui ont freiné. Et donc, on a toujours cette position très ambiguë autour de cette question. Avec peut-être, c'est une hypothèse, l'idée que, comme... mais c'est de moins en moins le cas. Le Parti Socialiste se présente comme un parti de gouvernement.
Alors bon, la gauche. Alors vous allez me dire, oh, quelle gauche ? Ta gueule !
Il a toujours eu peur de montrer une image trop laxiste.
Et alors si on continue un peu notre petit tour des positionnements.
Alors à la gauche de la gauche, les positionnements sont relativement contrastés aussi. Donc on a Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou qui sont très clairement pour la légalisation. En revanche, Fabien Roussel ne semble pas complètement favorable à la légalisation. C'est un peu moins clair pour Nathalie Arthaud. Les deux sont pour la dépénalisation de l'usage, mais les deux redoutent que la légalisation du cannabis entraîne la création d'un nouveau grand marché libéral qui serait encore une expression de la mondialisation capitaliste qu'ils entendent combattre.
Donc ça veut dire qu'ils seraient d'accord pour dépénaliser l'usage et pour, par exemple, permettre aux consommateurs de cultiver leurs petits plants sur leur balcon. En revanche, organiser une légalisation et une réglementation du marché du cannabis, ça c'est plutôt non.
C'est plutôt non. Après, il y a une convergence sur le rôle, c'est normal à gauche, de l'État. En France, contrairement à ce qui se passe en Amérique du Nord, toute la gauche favorable à la légalisation aimerait que ce soit vraiment sous contrôle de l'État, mais du côté de Fabien Roussel, on n'en est pas forcément même encore là.
Il préfère le bon gros rouge franchouillard que le shit qui vient du Maroc, en gros.
Je vous laisse libre de vos commentaires, mais ce serait dans le... Oui, ça correspondrait à la logique générale de sa campagne. Oui.
Qui c'est qui fait glouglou ? C'est la bouteille, c'est la bouteille. Qui c'est qui fait glouglou ? C'est la bouteille de chez nous.
On a parlé de l'évolution du positionnement du candidat Éric Zemmour. Il y a un autre candidat qui a énormément évolué dans ses positions. Vous disiez que Emmanuel Macron, si on juge son mandat actuel, il est très prohibitionniste, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, tout à fait. Pour la campagne de 2017, il s'était montré à ce moment-là plutôt ouvert. Et puis surtout, dans son camp, du côté des jeunes macronistes, mais aussi du côté d'un certain nombre de parlementaires qui ont participé à ce grand rapport très intéressant, transpartisan, qui a été fait l'année dernière, avec donc certains députés de La République en marche, ils ont pris position en faveur de la légalisation. Aujourd'hui, il me semble que le sujet est clos.
Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Emmanuel Macron ? C'est l'exercice du pouvoir ? C'est Gérald Darmanin ?
Écoutez, je ne suis pas le premier à le dire, et au-delà de la problématique des drogues, il semblerait quand même que Emmanuel Macron, qui vient du centre-gauche, soit passé du côté du centre-droit, si ce n'est de la droite. On ne peut pas savoir quelle est sa position intime, quelle est sa croyance en quelque sorte, mais au niveau de la stratégie politique, il a choisi un positionnement qui est plutôt à droite. Et pour le coup, alors c'est intéressant parce que le candidat ni droite ni gauche remet dans le coup le clivage gauche-droite. C'était une des conclusions aussi de ce panorama des candidats. L'axe gauche-droite sur cette question semble toujours finalement d'actualité.
Je me demande simplement si le Martial Perrin, oui, que nous avons connu à gauche du centre-droit, puis à droite du centre-gauche, est le même que celui que j'ai en face de moi aujourd'hui.
C'est ça.
Est-ce qu'on a une idée de la sociologie électorale des consommateurs de cannabis ? Est-ce qu'on sait pour qui votent les consommateurs de cannabis ?
Alors, je renvoie au grand sondage qui a été fait donc par l'IFOP. Près de la moitié des consommateurs de cannabis votent pour des candidats de gauche. Et dans ces candidats de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui apparaît nettement en tête des intentions de vote, avec près d'un quart des consommateurs réguliers ou occasionnels de cannabis.
Un quart donc des consommateurs réguliers ou occasionnels qui déclarent voter pour Mélenchon, ça fait 25% d'intention de vote des fumeurs de joint pour Mélenchon. Je pense que ces dernières semaines, il a été dans les sondages en population générale entre 12 et 15%. Donc on peut imaginer que le fait de consommer de façon régulière ou occasionnelle peut jouer et avoir un caractère déterminant dans notre vote.
Alors oui, mais on peut aussi penser que c'est un élément parmi bien d'autres. Donc je ne pense pas que, pour caricaturer, si je suis ultra-nationaliste, ultra-libéral, et que je fume très régulièrement du cannabis, je vais voter Jean-Luc Mélenchon.
Non, bien sûr que non. Hypocrite, hypocrite.
Je voulais revenir sur cette année 2002 que vous avez citée tout à l'heure, où vous nous avez dit, et ça peut paraître étonnant, en tout cas moi ça m'étonne, que le sujet du cannabis avait émergé en 2002 et que chaque candidat avait dû se positionner dessus. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2002 ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup la France a parlé de cannabis il y a 20 ans ?
Bonne question. C'était quand même une époque relativement épanouie. On était dans une situation un peu de, je dirais, d'honnêteté intellectuelle, et le cannabis, qui était un sujet dont finalement on avait eu beaucoup de mal à parler de façon constructive dans les années précédentes, apparaissait un peu comme une évidence, et les gens étaient assez décomplexés. Je ne saurais pas dire ce qui a été l'étincelle qui a fait que le sujet, ça n'a évidemment pas été le seul sujet discuté, mais ça a été un sujet, oui, assez débattu.
Des pétards à l'Assemblée, une association demandant la légalisation du cannabis avait ainsi interpellé les 577 députés. Le débat depuis n'a pas progressé.
En 2022, le sujet n'est pas du tout sur l'agenda. La raison est simple et elle est bonne. C'est la crise ukrainienne qui a contaminé, si je peux dire, toute la campagne présidentielle, et pas seulement la thématique des drogues.
Vous pensez que sans la guerre en Ukraine, peut-être que le sujet se serait imposé dans la campagne en 2022 ?
Oui, alors il y avait d'abord ces déclarations récurrentes du ministre de l'Intérieur. Il y avait eu quand même ce rapport transpartisan sur le cannabis récréatif qui avait fait parler de lui. Auparavant, il y avait eu un rapport du Conseil d'analyse économique qui avait été aussi dans le sens plutôt d'une légalisation. Il y avait eu les très nombreux cafouillages autour du CBD qui avaient été assez médiatisés. Il y avait au niveau international un certain nombre de choses qui avaient bougé. Alors en Amérique du Nord, dans certains États des États-Unis et au Canada, mais aussi plus proche de nous, un premier État européen qui s'est engagé vers la légalisation, Malte. Alors c'est pas le plus grand, certes, mais le plus peuplé, à savoir l'Allemagne, qui est en voie de légaliser si la coalition actuellement au pouvoir suit les engagements de campagne. Et là, si on a un grand pays comme l'Allemagne à notre frontière qui légalise, le sujet sera automatiquement sur l'agenda. Il y avait eu aussi toute une série de faits divers, tragiques, concernant le trafic de cannabis avec des jeunes qui ont perdu la vie, particulièrement à Marseille, qui poussaient un certain nombre de personnes à prendre des positions pour la légalisation en pensant que si on légalisait, on mettrait fin à cette criminalité localisée. Ça avait remis aussi le sujet sur la table. Donc, on avait un agenda préélectoral très favorable à ce que le sujet soit largement débattu pendant la campagne. Et on était beaucoup, à le penser.
Mais même avec ce terreau fertile, donc on disait tout à l'heure que la guerre en Ukraine a un peu cannibalisé la campagne, en même temps c'est bien normal, mais qu'elle a du coup complètement changé l'agenda. Mais cette guerre, elle se déclare le 24 février. Même avant le début de cette guerre, on a quand même peu vu les candidats s'emparer du sujet.
À part Yannick Jadot qui avait commencé au début de sa campagne, qui avait fait un déplacement sur une ferme de cannabis, qui avait vraiment pris position, à part Yannick Jadot, c'était effectivement, avant la guerre, même pas encore un sujet.
Je suis un journaliste professionnel.
Alors, oui, mais la campagne officielle n'avait pas démarré parce qu'on ne savait pas quels seraient en définitive les candidats. Beaucoup bataillaient pour avoir leur parrainage. Et donc, on avait une pré-campagne encombrée par la thématique des parrainages avant même d'aborder les sujets de fond.
Et si on se projette un peu, bon, s'il y a un second tour, Marine Le Pen, Macron, si on en croit par exemple la probabilité la plus forte dans les sondages, il y a peu de chances que le cannabis arrive dans les débats du second tour. Si il y avait un second tour Macron, Mélenchon, qui est aujourd'hui dans les sondages le candidat le mieux placé à gauche pour accéder au second tour, est-ce qu'on peut imaginer qu'un candidat Mélenchon amène ce sujet-là dans le débat?
Tout à fait, cela pourrait être intéressant, mais...
Mais est-ce que ça pourrait être un bon calcul électoral pour Mélenchon? Dans le sens où il y a beaucoup de candidats qui évitent ce sujet parce qu'ils font le calcul que ça va effrayer un certain nombre d'électeurs par principe, notamment l'électoral plus âgé, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, les fumeurs de joint peuvent représenter un pool électoral, une force politique? Déjà, est-ce qu'ils sont assez nombreux? Et est-ce que la question de la légalisation est suffisamment déterminante dans leur vote pour qu'un candidat puisse jouer cette carte et espérer y gagner quelque chose?
Alors, je ne peux pas me prononcer de façon scientifique sur le sujet. Ce qui est clair, ce sont les grandes tendances. Oui, en France, c'est un des pays où l'on consomme le plus de cannabis. C'est très clair. Oui, c'est de très loin la substance dont l'usage est illicite qui est la plus consommée. Donc oui, cela peut représenter quelque chose d'important. Et puis les sondages donc montrent qu'il y a quand même plutôt aujourd'hui un retournement de l'opinion qui semblerait favorable à une légalisation. Ce qui veut dire qu'il y a des Français qui ne consomment pas, qui perçoivent bien l'échec des politiques. Ça va au-delà de l'expérience personnelle. L'usage du cannabis a été quand même très dédiabolisé depuis quelques années, dédramatisé. J'avais étudié un certain nombre de fictions, des comédies familiales à la française. Et dans ces fictions, la plupart du temps, on peut avoir l'impression que c'est déjà légalisé. Aujourd'hui, quand vous représentez dans un film un consommateur de cannabis, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un marginal. Ça peut être une personne lambda dans une famille française. Ça, je pense que c'est acquis. Pour beaucoup de Français, le cannabis n'est pas autant un problème qu'il peut l'être pour une partie des politiques réticents à la légalisation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sonny Perseil.
Avec plaisir. Merci à vous.
Nick, la radio présente.
Il a une banane dans l'oreille.
Ouais, il a une banane dans l'oreille.
Ah ouais, il a une banane dans l'oreille.
J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi?
Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Moi, je me vois bien fumer avec Jean Lassalle, parce que pour moi, Jean Lassalle, c'est le candidat de la fête. C'est un peu le candidat, voilà, il est là, on sait un peu pourquoi il est là, mais c'est la fête. Et je pense que c'est un très bon partenaire de fumette.
Votez pour moi.
Avec qui je la partagerai cette banane? Je la partagerai avec Éric Zemmour.
C'est moi, le meilleur candidat.
Parce qu'il faut qu'il se détende. Il a besoin d'une petite banane pour décompresser, pour voir la vie à une autre vitesse, et peut-être avec d'autres couleurs aussi, je ne sais pas. Mais là, je pense qu'il y a un trauma qu'on peut aller chercher. Je pense qu'on pourrait creuser un petit peu et voilà, autour d'une petite banane et l'esprit totalement détendu, je pense qu'on pourrait arriver à un espèce de petit dialogue et à pointer du doigt là où vient le problème et essayer de construire quelque chose ensemble.
Si je devais partager une banane, ce serait avec Anne Hidalgo. On ferait tout Paris en vélo, de nuit, et puis après la petite banane, je crois que j'en profiterai pour lui demander son secret brushing.
Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant,
puisque je vous ai tout dit.
Alors moi, ça serait plus avec Jean-Luc Mélenchon, parce que à ce sujet-là, il est direct, il pense ce que les consommateurs pensent. Ça serait direct avec lui. Voilà, gros bisous, enjoy, et merci pour le livre, les gars. Ciao, ciao, banana.
Je vous donnerai tout ce que vous voulez, l'amour, l'argent et la santé, si vous me confiez ce mandat. Je vous promets, si vous en rêvez, de faire sauter tous vos PV. Et vous me donnez vos voix.
Un petit peu de Jean Lassalle, un soupçon de Zemmour, un zeste d'Anne Hidalgo et une bonne banane avec Mélenchon. Franchement, notre panel est hyper représentatif de l'électorat, Camille.
Bah ouais, la Banana Family, c'est une petite France, hein, Christophe, c'est un état dans l'état. Pas sûr en revanche que tous ces candidats soient chauds pour le partager, hein, ce pétard.
Ce qu'il faut dire, c'est que comme nous l'a rappelé Sonny Perseille, la weed peine à s'imposer cette année dans les débats, malgré une initiative lancée il y a 2 mois pour tenter d'imposer le sujet. Ça s'appelle le Normal Score. C'est un outil qui a été lancé par l'association Normal France qui milite pour une réforme des politiques sur le cannabis dans l'Hexagone. On a donc contacté son cofondateur, Florent Bussière, qui travaille sur le Normal Score depuis le Pérou et nous a tout expliqué.
Nous, on a développé le score normal pour vraiment donner aux citoyens la possibilité d'interpeller les politiques sur le cannabis, en leur demandant de remplir un court questionnaire qui permet en fait de se positionner et d'obtenir en fait un indice de compatibilité avec une légalisation du cannabis en France. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en fait le seul fait de répondre au questionnaire va mettre la personnalité politique sur des axes de réflexion sur lesquels il n'a peut-être pas déjà été approché. Et donc c'est tout l'intérêt de l'outil, c'est déjà un, le sensibiliser sur ces 5 grandes questions, et puis deux, d'obtenir effectivement sa réponse qui permet ensuite aux citoyens de pouvoir se positionner un peu et d'avoir en fait une sorte de panel, cartographie de tous les acteurs politiques concernant la légalisation du cannabis. L'outil fonctionne par envoi d'email. La majorité des gens qui étaient plutôt d'accord avec une régulation, une légalisation ou une dépénalisation du cannabis ont répondu. Ceux qui sont contre ou ceux qui ne veulent pas se positionner n'ont effectivement pas répondu, alors que quand on regarde les stats de l'outil, on voit bien que les personnes ont été largement interrogées. On voit bien que les mails sont ouverts, on voit bien que le lien est cliqué, mais il y a un petit manque de courage de leur part pour le moment pour répondre.
Allô ?
Bon, c'est pas joli joli quand même de ghoster une asso de citoyens comme ça. Heureusement, 5 d'entre eux ont quand même pris le temps de se prononcer et se sont vus attribuer un score normal.
En tête et sans surprise, avec 100% de compatibilité s'il vous plaît, c'est Yannick Jadot.
Juste derrière en seconde position, le pouli d'or de la légalisation, Philippe Poutou. 96%.
Sur la troisième marche du podium à 88%, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et suivent Jean Lassalle au pied du podium à 84%, puis Nathalie Arthaud, 68%.
Ces scores normaux, ils ont été définis grâce aux réponses des candidats à 5 grandes questions. On a donc demandé à Florent quelles étaient ces questions et comment il fallait interpréter les résultats.
Les 5 questions, elles sont 5 questions qu'on a reprises un peu en fait des questionnaires d'organismes qui travaillent sur la question des drogues. On va avoir une première question qui est sur plus l'aspect philosophique drogue et société, donc à savoir si un monde dans lequel une personne de drogue est possible ou pas. La deuxième question va plus concerner la question de la dépénalisation de l'usage. Ensuite, on a une troisième question qui porte plus sur les libertés individuelles par rapport à l'interdiction de l'usage du cannabis. La quatrième question, elle porte plus en fait sur la distribution non mercantile du cannabis, donc à savoir tout ce qui est logique d'autoproduction, les cannabis social clubs, voilà, toujours réservé aux adultes, hein, bien entendu. Et la cinquième question, elle demande en fait tout simplement si la personne est favorable à l'ouverture d'un marché du cannabis. En fait, les gens y répondent de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Pour avoir un score de 100%, il suffit tout simplement de répondre tout à fait d'accord à toutes les questions. En fait, au-dessus des 80%, on peut être sûr que les gens sont pour une légalisation avec une ouverture du marché, etc. Après, c'est pas forcément dans l'intérêt du politique de répondre tout à fait d'accord aux 5 questions. Le but d'origine, c'était de définir avec ces 5 questions 4 à 5 grandes typologies de répondants, donc des gens qui sont régulationnistes, des gens qui sont à l'opposé totalement prohibitionnistes, des gens qui sont plus mesurés entre deux, le ventre mou, qui est la majorité en fait des politiques sur la question du cannabis. Les gens sont pas informés, donc ils sont en fait dans une sorte de ventre mou. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que par exemple, Valérie Pécresse se positionne et qu'elle réponde par exemple à peu près d'accord à la première, et puis non à l'autoproduction, non au club, enfin voilà. Si on est contre la légalisation du cannabis, si on est contre, autant répondre au score normal et indiquer que, voilà, on est en dessous des 40%, des 50%, on inscrit dans le MAP que, avec le score normal, on n'est pas pour une régulation du cannabis.
Alors, il y en a une qui n'est pas tout à fait contre, mais pas tout à fait pour non plus. Elle est embarrassée, hein, nous disait Sonny Perseille. C'est Anne Hidalgo. Et à gauche, eh bien, c'est la seule, avec le communiste Fabien Roussel, à ne pas avoir répondu à Normol. Mais comment Florent interprète-t-il cette non-réponse ?
Je pense qu'elle connaît mal le sujet. Déjà, elle doit mal maîtriser le sujet. En fait, elle ne veut pas prendre de danger parce qu'en fait, il n'y a aucune opportunité politique pour quelques candidats que ce soit actuellement en France de se positionner pour l'égalisation du cannabis. C'est un manque de courage, un manque de responsabilité, un manque d'information, bref, c'est dommage. Et en plus, Anne Hidalgo, c'est une des personnes qui a été la plus questionnée par les utilisateurs du score normal. Les personnes qui ont été les plus interrogées, ça a été Éric Zemmour en premier, ensuite Mélenchon et ensuite Jadot. Et ensuite vient Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo n'a pas daigné répondre. On a bien vu que les mails étaient ouverts de son côté et que, bon, elle a pris connaissance du score normal, mais... il n'y a pas eu de volonté de sa part d'y répondre.
On s'est aussi interrogé sur le score de Jean-Luc Mélenchon. 88%, 3e position. C'est pas ouf en fait, alors même que selon Sonny Perseille, il est avec Yannick Jadot le candidat le plus favorable à une légalisation du cannabis. Alors pourquoi Jean-Luc ne tape-t-il pas les 100%?
Jean-Luc Mélenchon, il est pour une légalisation du cannabis, il est pour l'autorisation de l'autoproduction, il est pour effectivement la collectivisation des moyens de production, donc automatiquement les cannabis social clubs. Il n'était pas forcément tout à fait d'accord sur la question du marché, si je me souviens bien. Et sur la question des libertés individuelles. Sur le programme de l'Union Populaire, nous on est allé fouiller un peu, et bon, sur la question des drogues, ils n'ont pas retravaillé vraiment la chose. Le mois dernier, moi quand j'étais allé voir, c'était un copier-coller du programme de 2017.
Eh ben bravo Jean-Luc. En 5 ans, personne chez les Insoumis pour retravailler ce point du programme, franchement.
Allez, les deux tours de la présidentielle se tiendront les 10 et 24 avril prochains, mais le score normal ne s'arrête pas là. C'est un projet de long terme qui a vocation à faire émerger le sujet dans le débat public français et à sensibiliser les politiques, bien au-delà du futur président ou de la future présidente de la République.
Ceux qu'on doit vraiment impacter, ceux qu'on doit vraiment interroger, ceux qu'on doit vraiment sensibiliser, ce sont les députés et les sénateurs. Et donc c'est pour ça que suite à la prochaine élection présidentielle, quand il y aura un renouvellement du Parlement, et bien là, c'est là où on va vraiment mettre le boost sur le score normal et on va vraiment demander aux députés et sénateurs de se positionner. Et ainsi, on va avoir une vraie cartographie, tous les députés et sénateurs qui seront du coup nouvellement élus. C'est pour ça que c'est un outil qui va s'inscrire sur le temps long en fait.
Et si toi aussi tu veux interpeller ton ou ta député sur le cannabis, ben ça se passe sur le site de Normal France, score.normal.fr.
Je vous prierai de ne plus me tutoyer.
Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir les activités de cette association et de ses bénévoles qui mènent un vrai travail de fond sur le sujet et qui, que ce soit dit, ont toujours besoin de renfort.
Banana Cash.
Yes, we have no banana.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
Alors, si je devais choisir un candidat à la présidentielle pour fumer un joint, ça serait certainement Jadot. C'est le seul candidat à savoir la différence.
Qu'est-ce que je dois faire pour parler moins vite?
Entre le CBD et le THC.
on fumerait une weed de qualité qui serait bio, pas trop fortement dosée en THC. On parlerait du bien-être des patients, des enjeux du cannabis en France. Et peut-être que comme ça, on pourrait faire avancer les choses.
D'une façon générale, le monde d'aujourd'hui est gouverné par l'énergie.
Alors moi, parmi les candidats et les candidates à l'élection présidentielle, je crois que je préférerais partager une banane avec Valérie Pécresse. J'imagine bien le truc, la soirée, la meuf, pas trop dans la vibe. Genre, elle est rivée à son iced tea, elle demande d'ouvrir la fenêtre parce qu'il y a trop de fumée, tout ça, bref. Finalement, elle voit bien que les gens s'amusent bien, qu'ils sont sympas et tout, et là, elle se laisse tenter. Et grosse révélation, genre, elle renoue avec son enfant intérieur, elle est enfin en phase avec ses émotions, elle devient pansexuelle, décide d'être sophrologue. Elle a ce potentiel, il faut juste qu'elle mette le doigt dessus. Et je pense que, voilà, Valérie, si tu m'écoutes, ben, tire une latte et je pense que tu deviendras une meilleure version de toi-même.
Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres.
Il y a un grand absent quand même de toutes vos notes vocales, c'est Philippe Poutou, score normal 96%. Alors, faut rendre à Poutou ce qui appartient à Poutou sur notre compte Instagram. On a lancé le sondage et le candidat du NPA avait remporté tous les suffrages et de très loin. Poutou, président, une banane et un Poutou.
Ok, ok, ok. C'est sur ce slogan politique d'avenir qu'on va se quitter. Merci Camille. N'hésitez pas à faire tourner ce banane à queue spécial présidentiel et à le réécouter sur le chemin des urnes. C'était Christophe et Camille, assesseurs en chef.
Au dépouillement, notre réal Charlène Nouilloux.
Merci à notre stagiaire Horace Dufaux, observateur du bon déroulement du scrutin.
Restez bien jusqu'à la fin du générique, mais pour qui vote Banane à Kush ? Bah vous le saurez dans la banane de fin.
Vraiment ? Alors, super teasing Camille, par contre je vais devoir décevoir nos auditeurs, mon vote restera dans le secret de l'isoloir.
Ouais, puis moi en vrai, même après cet épisode, pour être honnête, j'en ai toujours aucune idée.
Au fait, t'as vu la fin de la vidéo de Combini avec les candidats là ? Quand on leur demande la différence entre le CBD et le THC, et ben à part Yannick Jadot, il n'y en a pas un qui sait répondre, franchement.
Le mieux, c'est Zemmour qui est là, bah, c'est le taux de cannabis. Je crois qu'il faudrait qu'on leur envoie à tous un exemplaire de notre livre. Hein. Et puis dans 5 ans, allez hop, devoir sur table. Ou mieux, on sort le volume 2, Me, Myself and I. 12 candidats à la présidentielle racontent leur rapport au cannabis.
Ouais, ok, bonne idée, mais vu leur manque de connaissances sur le sujet, je suis pas sûr que le bouquin fasse 200 pages cette fois-ci.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.